Donc je vais vous parler, bonjour déjà, je vais vous parler de la restauration des robes en tulle et de l'usage expérimental du nylon net en France, recherche et résultats. Les restaurations engagées au sein du Fonds Vionnet ont concrètement démarré en juin 2008. 128 robes ont dû être traitées avant le 23 juin 2009, date d'ouverture de l'exposition. Un an donc pour aborder ces pièces, parmi lesquelles on compte 9 robes, majoritairement composées de tulle de soie, dont 9 ont été restaurées à l'atelier du Musée des Arts Décoratifs en janvier et juin 2009, c'est-à-dire sur une période de 6 mois. Ces robes constituent l'un des deux points essentiels de cette présentation et nous allons les aborder en premier lieu avec quelques chiffres. La collection comporte au total 20 robes avec du tulle de soie. Sur ces 20 robes, 18 sont à restaurer. Sur ces 18 robes à restaurer, 10 sont incluses dans la campagne de restauration à base de nylon net dont je vais vous parler. Et parmi ces 10 robes, 9 ont déjà été traitées. Ce sont donc ces 9 robes qui illustreront nos propos. Pour information, 5 de ces robes sont visibles dans l'exposition. Donc, parmi ces robes, on trouve des tulles. Alors, je précise très rapidement que le tulle est un textile à base de mailles hexagonales, parce que je n'ai pas fait donc, toute la présentation technique du tissu comme Patricia l'a très bien fait avec son tissu. Donc c'est une maille hexagonale de type moustiquaire ou voile de mariée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc parmi les 9 robes, on trouve donc des robes avec du tulle sans décoration, des robes en tulle avec des applications de strass en frise, comme vous le voyez là. On trouve également des broderies de filets métalliques sur le tulle. On trouve d'autres robes avec des broderies de filets métalliques mélangées à des fils de soie. On trouve des broderies de fils et des perlages sur une même robe également. Et des applications de panne de velours. On trouve également des applications en volume, telles que les fleurs que vous voyez là. Ces robes présentaient avant restauration des états de dégradation plus ou moins avancés. Ils allaient du simple accro, comme vous le voyez là, un stade qui compromettait sérieusement l'exposition. Il a donc fallu trouver des matériaux et des méthodes tenant compte des problématiques liées au tulle de soie, comme la transparence, la fragilité, le tombé aérien et le tout dans un délai restreint. C'est le tulle de nylon fabriqué en Angleterre par l'entreprise Dukeries et communément appelé nylon net qui constitue le deuxième point de notre propos et nous a permis de venir à bout de la restauration de ces robes. Avant de vous expliquer comment ce matériau est arrivé jusqu'à nous, il est important de définir le contexte des expérimentations, ainsi que les acteurs directement impliqués, et enfin, les objets qui ont monopolisé notre attention. Pour le contexte, je tiens à revenir sur le titre même de mon intervention, qui me semble un peu trop ambitieux du point de vue géographique, car je pense qu'il est plus sage de ne pas étendre à l'ensemble du pays ce que nous avons essentiellement réalisé à l'atelier, que vous voyez, à l'atelier de restauration donc du Musée des Arts Décoratifs. Pour les acteurs, qui sont plutôt des actrices, une fois encore, il y a tout d'abord Aude Mansoury, restauratrice de textiles officiellement rattachée à la campagne de restauration Vionnet et qui vous a présenté hier le nettoyage. Elle a passé 15 mois à l'atelier. Il y a également Stéphanie, donc, qui est à ma droite, venue restaurer donc une robe en tulle de janvier à juin dans le cadre de son mémoire, et moi-même, également restauratrice de textiles, arrivée en poste à l'atelier à la moitié de la campagne de restauration. L'acteur scientifique est le C2RMF, représenté par Jean-Jacques Ezrati, ingénieur de recherche. L'établissement des constats d'état détaillés de ces robes fait apparaître des dégradations récurrentes, principalement réparties à la taille, aux emmanchures, à l'encolure et aux extrémités des parties flottantes, telles que les bas de robes, les écharpes ou les volants. Donc on trouve toutes sortes de dégradations. Ici, vous voyez des accros et des petites lacunes, des effilochages. On trouve des déchirures plus ou moins graves, donc souvent au niveau du passage des bras ou des ouvertures, des encolures. Donc là encore une lacune située sur le bas d'une robe. Donc on trouve des fragilités ponctuelles, comme je viens de vous le dire, à toutes les zones qui sont très sollicitées lors du port des vêtements. Et on trouve des fragilités plus structurelles, c'est-à-dire liées à la qualité même du tissu, à la soie, qui se dégrade facilement. Et donc certains tulles sont devenus rigides et cassants. D'autres semblent corrects à l'œil nu, mais se fendent très facilement au cours des manipulations. Et d'autres, enfin, se désintègrent au moindre contact. Sur les 9 robes, on peut distinguer en gros 4 stades de dégradation. Donc un premier stade qui comporte de petites dégradations ponctuelles, comme des décousures, des bordures usées, quelques déchirures, mais dont le tulle a encore une bonne résistance. Il y a un deuxième stade qu'on pourrait qualifier d'état moyen, mais sur lequel on voit un risque majeur d'aggravation des dommages, de par soit la façon de porter le vêtement, c'est-à-dire dans le cas de la jupe noire, il y a un drapé qui pourrait aggraver les petites déchirures qu'il y a, et dans l'autre, la façon de mannequiner la robe pourrait entraîner également des dégradations plus importantes. Un troisième stade, enfin, qu'on pourrait qualifier de mauvais état, enfin que l'on qualifie de mauvais état, mais dont la qualité du tulle laisse encore imaginer une exposition possible. Et enfin, le quatrième stade, là on parlera carrément de ruines, ce sont des robes qui sont inexposables en l'état, dans lesquelles il manque des morceaux. Ce n'est pas flagrant sur les photos, mais croyez-moi sur parole, c'est effrayant quand on les voit la première fois. Et ces robes ont été classées pour la plupart comme irrestaurables avant la campagne de restauration. Alors les facteurs de dégradation, ils sont nombreux. Et on va d'abord aborder les facteurs chimiques. Donc comme facteur chimique, il y a bien entendu le vieillissement naturel des fibres de soie qui engendre une fragilité structurelle générale des robes. Il y a donc ensuite les facteurs physiques. Alors parmi eux, il y a la contexture même du tulle. C'est une maille relativement ouverte, un peu lâche, qui capte facilement la poussière. Et cette poussière, dans des mauvaises conditions de conservation, entraîne des réactions chimiques qui accélèrent les dégradations. La construction des robes est également un facteur physique de dégradation. Les plus endommagées sont souvent des robes avec des jupes très larges, très évasées, et qui engendrent un certain poids. Et donc certaines possèdent même plusieurs jupons superposés, d'autres des crins de maintien qui ajoutent encore au poids de la jupe elle-même. Et ces jupes sont souvent donc fixées directement sur le corsage par une simple couture. Et donc ça crée bien évidemment des dommages à cet endroit-là. Il faut préciser il faut surtout pas oublier que la plupart de ces robes étaient des prototypes et non des vêtements destinés à la clientèle. Et les coutures sont souvent grossières et pas très bien finies. Donc ça aggrave encore la fragilité de ces zones. Il y a aussi les facteurs de dégradation qu'on pourrait qualifier d'historiques. Donc on vient de rappeler que ces robes étaient pour la plupart des prototypes. Et sachant qu'au moins un défilé avait lieu par jour durant les 6 mois que composait une saison, il n'est pas surprenant qu'on retrouve aujourd'hui de nombreuses traces d'usage et d'usure, des déformations et des altérations telles que des trous, notamment dans le bas des robes. Certaines déchirures peuvent être attribuées à l'utilisation des vêtements, mais d'autres sont plutôt le lot de manipulations maladroites et inadaptées. Certains plis, certaines déformations peuvent être attribués à un stockage inapproprié à un moment du parcours des robes jusqu'à nos jours. Toujours dans les facteurs historiques, on peut classer certaines des anciennes restaurations. Donc il y a les ravaudages, les raccommodages courants, quelquefois des reprises, mais on trouve aussi, comme nous l'avons vu déjà à plusieurs reprises, des interventions lourdes telles que des consolidations par thermocollage. Donc là, il y avait effectivement pas mal de robes avec des tulles encollées qui, à la base, servaient à stabiliser, mais qui, comme vous le voyez, ont engendré des dégradations bien pires encore lorsque le tulle de restauration s'est rigidifié avec l'adhésif. Et puis on a donc les facteurs climatiques. Alors les conditions de conservation des robes avant et après leur intégration de la collection au sein du musée ne sont pas connues avec précision. On sait qu'il y a eu des parcours différents pour chaque robe Et on sait aussi qu'elles ont pu être en contact avec un climat plus ou moins humide ou instable qui a pu accélérer les phénomènes de dégradation dont je viens de vous parler. Alors, les problématiques de restauration. Donc, les différentes altérations que nous avons vues précédemment ont besoin d'être consolidées afin que les robes ne s'abîment pas davantage et afin qu'elles puissent être présentées pour certaines d'entre elles à l'exposition. Le mode de consolidation doit donc permettre de traiter différentes altérations réunies sur une même robe. Nous avons vu que le cas existe. Et il doit pouvoir permettre de faire des consolidations partielles, telles que des patchs, des doublages sur des zones plus ou moins étendues, et doit nous permettre d'aller jusqu'au doublage total, voire à la mise entre deux couches de tissu de consolidation, c'est-à-dire la mise en sandwich. La consolidation par ligne de points sur un tissu de support tel qu'elle est couramment pratiquée en restauration textile est celle qui semble le plus adéquate, la plus logique, au vu des restaurations par collage qu'on a vues auparavant. Rien d'original jusqu'ici, et c'est plutôt le choix du textile de support qui a mobilisé nos réflexions. Le support doit en effet répondre à plusieurs exigences. Il doit nous apporter discrétion et lisibilité. Lisibilité des décors brodés et appliqués, notamment lors d'une mise en sandwich. Il doit également respecter la transparence des tulles originaux, tout en comblant les lacunes. Le respect des délais et la maniabilité sont deux autres qualités qu'on doit trouver avec le support, puisque nous souhaitons, dans la mesure du possible, ne pas démonter les robes pour les consolidations importantes et étendues. Il était donc nécessaire de travailler avec un tissu de support facile à couper, facile à placer dans la robe, et également facile à fixer. Nous ne pouvions aller au-delà des délais imposés par l'ouverture de l'exposition. Il fallait donc pouvoir travailler vite. La résistance et la pérennité sont les autres qualités que l'on doit pouvoir trouver avec le support. Le tissu de support doit en effet être suffisamment résistant pour survivre à une durée d'exposition de 7 mois, mais doit rester léger pour ne pas aggraver les problèmes de tension au niveau des tailles notamment. Il ne faut pas qu'il change le tombé caractéristique des robes et ne doit donc être ni trop mou ni trop rigide. Fin, transparent, résistant, facile à couper, à placer, à coudre, adaptable, sont autant de paramètres qui nous ont amenés au nylon net. Le tulle de nylon N8000, ou nylon net, est arrivé à l'atelier des arts décoratifs par deux voies. L'une est une expérience plutôt empirique, l'autre est une démarche plus scientifique. La première, l'empirique donc, est avant tout personnelle. C'est à Dublin, au Textile Conservation Studio de Cliona David, que j'ai découvert le nylon net. C'est cette restauratrice de textile diplômée du TCC et avec qui j'ai travaillé quelques mois qui m'a initiée à ce matériau. La tradition française est attachée aux textiles naturels, tels que la crépeline de soie, et j'avais peu entendu parler du tulle de nylon au cours de mes études ou par mes collègues. Dans le peu que j'avais entendu, il y avait souvent des propos méfiants ou négatifs. C'est donc au cours de la restauration d'un tapis de sel que j'ai pu expérimenter un mode de consolidation original à l'aide d'un matériau nouveau pour moi et pas si négatif que je ne l'avais imaginé. Il s'agissait en effet de la consolidation de cordonnets appliqués comme décoration, enfin dans une broderie, et très effilochés. Je n'ai malheureusement pas d'images à montrer, mais je peux vous expliquer que j'ai fait une sorte de gainage sur les fils que j'ai fixés avec des fils de soie. Alors l'expérience racontée comme ça paraît extrêmement succincte, mais elle a été suffisante pour attiser dans un premier temps ma curiosité. Et elle m'avait en tout cas permis de goûter à la maniabilité, la discrétion, la souplesse et la solidité du matériau. Pas besoin d'ourler les pièces de consolidation, besoin de peu de points de fixation, une quasi-invisibilité des pièces de consolidation grâce à la transparence des fils qui composent ce tulle, et un découpage et une mise en place très facile. Madame David a poursuivi mon initiation en me parlant de ses restaurations réalisées au nylon net. Elle m'a montré ses teintures et m'a donné les coordonnées du fournisseur, mais m'a cependant mise en garde contre la tentation. La tentation de vouloir mettre le nylon net à toutes les sauces, tant sa maniabilité et sa discrétion sont satisfaisantes. J'ai donc quitté l'Irlande avec des échantillons en poche et l'envie de poursuivre mes expérimentations. C'est de retour en France et de passage à l'atelier du musée Galliera que j'ai rencontré donc Stéphanie, qui menait une recherche sur la transparence dans le cadre de son mémoire d'études. Son expérience professionnelle américaine et ses investigations du moment, sous forme d'une enquête qu'elle vous présentera tout à l'heure, l'avaient bien entendu menée aux aspects positifs du nylon net. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à réfléchir conjointement sur les robes de tulle vionnet à l'atelier des arts décoratifs, Nous avons converti Haute-Montsouris. Mais passons le stade des anecdotes, qui, je pense, ne suffira pas à rassasier votre curiosité sur le matériau lui-même. Je vais vous présenter le nylon net à travers son histoire, son identité chimique et aborder ses qualités à travers les études dont il a été le sujet en Europe et à l'atelier. Donc, quelques mots sur le matériau qu'il compose, le nylon, donc, qui fut inventé en 1935 aux États-Unis. Il fait donc partie de la grande famille des polyamides. C'est un matériau thermoplastique et soyeux. Donc, à partir de ce fil de nylon, on fabrique des textiles et notamment le tulle. Donc, l'utilisation du tulle de nylon dans le domaine de la restauration a débuté à la fin des années 60 au National Museum of Scotland. Le diamètre des fils et le réseau se sont affinés au cours des années. Et depuis 1970, on utilise aujourd'hui dans pas mal de pays d'Europe, en Espagne, en Scandinavie, au Royaume-Uni notamment, le tulle de nylon N8000, 20 deniers, monofilament thermolié. Vous avez ici une vue de la maille agrandie. Il est fabriqué par la société Dukeris Textile en Angleterre et s'achète en largeur de 5 mètres. Ses mailles hexagonales mesurent 1 mm de large et il pèse environ 7,8 g par mètre carré. Une étude comparative réalisée par Stéphanie dans le cadre de son mémoire a permis de mettre en avant les aspects positifs du nylon net du point de vue de la transparence, de la stabilité physico-chimique et de la résistance mécanique, qui sont parmi les paramètres requis pour la restauration des 9 robes. Tout d'abord, une série de tests pour la résistance. Donc, pour la résistance de ces différents tissus de support que sont la crépline de soie, le tulle de soie et le nylon net, l'étude de Natalia Arbues-Fondos et de Sofia Vicente Palomino a servi de référence. Soumis à des forces allant de 0 à 400 N, il apparaît que la crépline de soie est le matériau le moins résistant, tant au niveau de la trame que de la chaîne. Le tulle de soie et le tulle de nylon monofilament ont la même résistance jusqu'à une force de 400 N. Mais le tulle de nylon atteint, au-delà de cette force, la valeur de résistance la plus élevée. Il s'impose donc des trois matériaux comme le tissu de support le plus solide pour la consolidation. Durant les 40 années qui suivent sa première utilisation, les restaurateurs de textiles du National Museum of Scotland n'ont observé aucune altération des traitements de restauration entrepris avec ce tulle de nylon. Par ailleurs, une série de tests axés sur le photovieillissement artificiel accéléré, également appelé xénotest, souligne uniquement une petite perte de solidité et un léger changement de couleur. Pour la teinture, ensuite. Donc, la teinture est un des paramètres liés à la transparence des matériaux de support lorsque l'on utilise en restauration. Des tests de teinture ont été effectués sur des pièces d'étoffe, donc crépline de soie, tulle de soie et tulle de nylon, encore une fois, donc des pièces de même poids. La couleur recherchée a été réalisée avec des colorants métallifères de type lanacette fournis par la marque Huntsman, celle que nous utilisons en restauration. Donc, ce sont des colorants utilisés pour les fibres protéiniques. Après séchage, le tulle de soie a pris une teinte plus soutenue en absorbant davantage les colorants. Mais le tulle de nylon et la crépline de soie ont pris exactement la même couleur et sans mal uni. Je dois préciser par ailleurs que plusieurs recherches de couleurs ont été réalisées avec le nylon net à l'atelier et ont confirmé effectivement la facilité à obtenir les couleurs désirées. Mais on doit signaler cependant que quand on teint en grande quantité, on obtient souvent un demi-ton plus foncé que la crépline de soie. Donc, il faut en tenir compte au moment des recherches. La transparence, enfin. Donc, une première série de tests sur la transparence... Pardon, pas encore. Une première série de tests sur la transparence ont été réalisés à l'œil nu à l'atelier, à partir de la robe de tulle rose restaurée par Stéphanie, qu'elle vous présentera par la suite. Donc, un échantillon de crépline de soie teinte, de tulle de soie teint, de nylon net non teint et puis de nylon net teint ont été glissés sous les couches de tulle de la robe. La crépline, bien qu'assez discrète, opacifie le tulle. Le réseau de tulle de soie, en se superposant à celui du tulle d'origine, est particulièrement visible et brouille la lecture de la robe. Le tulle de nylon non teint, dont le fil et le réseau sont très transparents à la lumière du jour, a tendance à blanchir l'aspect général de la robe. Le nylon net teint, donc de la même couleur que la robe en rose, bien qu'ayant un réseau différent de celui du tulle d'origine, s'harmonisait parfaitement avec le réseau d'origine. Donc il ne brouillait ni sa lisibilité et n'obstruait pas sa transparence. À l'issue de ces tests d'observation à l'œil nu, la transparence a ensuite été mesurée à l'aide d'un spectrocolorimètre dans le cadre d'une étude menée par M. Israti, ingénieur de recherche au C2RMF, et ce grâce aux mémoires de Stéphanie. Donc l'appareil, le spectrocolorimètre, mesure la couleur et renseigne également sur le degré de clarté de l'étoffe. C'est cette dernière caractéristique, mesurée en longueur d'onde, qui a retenu notre attention. Un morceau de tulle de la robe rose a été mis sous une pièce de chacun des tissus de support cités auparavant. Et donc, voici les résultats. Donc, vous avez les mesures en longueur d'onde sur la droite. Donc, des trois tissus de support, le tulle de nylon apparaît comme celui qui préserve au mieux la transparence de l'étoffe d'origine. L'utilisation d'adhésifs sur le tulle de nylon offre des possibilités de consolidation intéressantes, développées par Stéphanie dans le cadre de son mémoire, à travers une série de tests élaborés à partir d'adhésifs tels que la CLUS-LG, la Tylose MH300P et la LASCO 360HV. Mais comme la fragilité des tulles des robes à restaurer ne supportait pas les manipulations et les tensions engendrées par un collage, les résultats de ces tests ne seront pas détaillés ici par manque de temps. Donc, à l'issue de cette série de tests et analyses, le nylon net s'avère être le plus satisfaisant des trois supports comparés. Il assure une solidité importante pour une transparence optimale, il est stable dans le temps, il se teint facilement comme la soie. Et donc les recherches de couleurs que nous avons faites auparavant, nos stocks de recettes de teinture peuvent nous resservir, donc ça c'est un avantage certain. Donc toutes ces qualités sont à ajouter à celles que je vous ai exposées lors de l'expérience pratique que j'ai eue en Irlande. Le nylon net n'est pas un matériau magique, il y a quand même quelques inconvénients bien sûr. Donc déjà il est photosensible et s'il est exposé dans de mauvaises conditions, dans des galeries non climatisées ou dans des lieux mal adaptés à la conservation, son degré de vieillissement se rapproche de celui de la crépeline de soie. Enfin, les pratiques d'atelier ont montré à plusieurs reprises qu'il forme des plis et qu'il se froisse énormément lorsqu'il est exposé à une température de plus de 80 degrés, lors des teintures notamment. Et donc, on n'a pas encore trouvé de solution miracle pour le remettre à plat. A priori, la meilleure solution pour éviter ça est de teindre à une température légèrement inférieure, et donc de bien contrôler la montée en température des teintures. Malgré ces deux bémols, les différentes approches du nylon net convergent vers un constat évident. Il présente toutes les qualités, enfin en tout cas la majorité des qualités requises pour la restauration des robes dont nous parlons aujourd'hui. La dernière partie de cette présentation va nous permettre de parcourir en images les différentes restaurations qui ont été réalisées à l'atelier par l'équipe. Donc je précise avant toute chose que même si nous avons obtenu des arguments scientifiques, enfin des choses assez concrètes, assez solides par rapport aux matériaux, on n'avait aucune base pour démarrer les restaurations. On n'avait pas de protocole particulier à mettre en place. Donc on a démarré sous la même forme que les autres restaurations, comme si on était avec une crépeline ou un autre tissu, et on a procédé exactement de la même façon. Je dois préciser donc que nous avons avancé dans nos recherches au fur et à mesure des travaux et que chaque nouvelle robe, chaque nouveau cas a été l'occasion de découverte dans les techniques, l'occasion de mise au point supplémentaire. Donc on est bien sûr là dans une démarche totalement empirique. Donc là vous pouvez voir un premier exemple de consolidation simple, donc une petite lacune, une petite déchirure, pas exactement une lacune, qui a été consolidée, est-ce qu'on voit ma flèche ? Oui, à partir d'une pièce donc, qu'on a adaptée à la forme des motifs pour rester discrète, pour que justement les points d'accroche soient suffisants, enfin dans des zones saines un peu plus épaisses, et puis pour qu'on n'attire pas l'attention spécifiquement sur la lacune avec les deux types de réseaux qui se superposent. Donc voilà la robe qui n'est pas dans l'exposition. Ah, pardon. Désolée. Donc ici, vous avez un exemple de consolidation d'une zone de tension dont je vous ai parlé. Donc il y a les emmanchures, les tailles, mais il y a aussi donc les endroits où sont fixées les bretelles des robes. Et donc c'était une robe avec un perlage qui était relativement pesante. Et donc vous voyez qu'il y a une consolidation qui a été faite à cet endroit-là avec donc le tulle de nylon. Donc ça a été fixé avec des points, c'est du point de surjet ou du point droit, tout simple. Donc voilà la robe, qui elle n'est pas dans l'exposition. Et je précise qu'elle n'est pas restaurée sur cette photo. C'est juste pour vous montrer en fait la façon dont elle se porte. Donc là, on va aborder quelque chose d'un peu plus complet. Donc il s'agissait de la restauration donc de la jupe en tulle noire que vous avez vue tout au début. Donc on va commencer par la fin, ce sera plus simple. Et on va revenir en arrière. Donc voilà. Et ce que je vais vous montrer, donc, c'est le détail de la restauration de la ceinture, donc, qui est très large et qui se noue. Donc on ne voit pas le nouage ici, qui se noue à l'arrière de la robe. Donc vous pouvez voir ici plusieurs dégradations donc réunies sur la ceinture, donc les bordures défaites, des trous, des accros, des fils volants un peu partout. Donc voilà, comment nous avons procédé. En fait, on a décidé de la doubler simplement sur une face avec le nylon net. Donc on l'a installé. Et on a commencé à répartir les lignes de points. Ça vous le verrez après, je ne suis pas au point dans l'ordre des photos, mais je vais y revenir dessus. Et donc, pour éviter une mise en sandwich totale qui rigidifiait trop la ceinture et perturbait le nouage au moment du mannequinage, on a décidé d'intervenir de façon supplémentaire au premier doublage, de façon locale. Donc vous voyez ici qu'on a le tissu de support. Alors je dois préciser qu'en fait, en tout cas pour mon cas, je n'ai pas coupé les pièces de consolidation avant la fin de la fixation sur l'objet. Justement, il se manie très bien, donc on l'a d'abord fixé et ensuite on coupait au contour pour être sûr d'être bien calé au niveau des tailles des supports. Donc là, il y a déjà le support général dessous et on a apporté une petite pièce supplémentaire qu'on a fixée donc, par des lignes de point droit. Pour éviter le problème des effilochages, enfin des fils qui restent volants malgré les lignes de points de fixation. Donc là, autre petite lacune qui a été stabilisée avec une toute petite pièce. Donc là, je dois préciser que c'est pas cette petite pièce de consolidation qui stoppe la dégradation. C'est vraiment le doublage total. Cette pièce-là, elle sert surtout à éviter que les fils ne relèvent de l'autre côté. Donc voilà, la pièce une fois consolidée. Donc vous apercevez les lignes de consolidation qui sont espacées d'environ 5 cm, voire plus, selon. On utilise moins de lignes de fixation que lorsqu'on travaille avec une crépline, par exemple. Donc ça, c'est déjà un avantage certain. Et puis, donc ce sont des lignes de point droit. Et on utilise des lignes de point droit également pour les consolidations, car on a constaté au fur et à mesure que le point de restauration créait des tensions au niveau du tulle original. Donc pour éviter que les fils ne cassent, on voulait pouvoir garder une certaine souplesse, un certain mouvement possible entre le support et le tulle d'origine, donc uniquement du point droit, ce qui permet de travailler plus vite aussi, puisque on passe moins de temps à faire des lignes de point droit que des lignes de point de restauration. Donc voilà, l'objet est terminé, et donc la photo finale. Elle n'est pas dans l'exposition non plus, pardon. Donc, autre exemple, là, on a une fragilité. Donc ce ne sont pas des lacunes, simplement des déchirures, mais qui, avec le poids du tissu, s'accélèrent. Donc, voilà la consolidation qui a été faite. Alors, les photos ne sont pas très flatteuses non plus. C'est très visible comme ça, mais une fois la robe mise sur mannequin, on ne voit absolument plus rien. Donc, voilà, là, une déchirure qui a également été consolidée par une pièce que vous apercevez ici. Et donc, voilà la robe en salle d'exposition. Donc là, un cas un peu plus avancé, donc une jupe qui était très très dégradée, il manquait des morceaux au niveau des hanches, au niveau de la ceinture. La ceinture se détachait quasiment totalement, elle était juste retenue par quelques fils et par les bordures de l'ouverture pour l'enfilage. Donc là, on a procédé d'abord avec une première couche de tulle de nylon qu'on a placée et qu'on a fixée. C'est pas visible sur la photo, mais je vous explique. Donc une première série de lignes qui ont été placées très espacées. On a ensuite placé la deuxième couche qui permettait de faire la mise en sandwich de cette partie. Et on a placé une deuxième série de lignes qu'on a intercalées avec la première. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. On n'a pas placé les deux pièces de consolidation en même temps, parce que c'était très compliqué de reconstituer la forme, enfin la partie manquante au niveau des hanches. On a ensuite gainé la ceinture. On l'avait démontée, là c'était indispensable. On a gainé la ceinture donc de tulle également, pour pouvoir venir réunir les deux parties. Donc voilà un essayage en cours de traitement. Donc là vous avez un détail où on aperçoit les fils et les points. Donc voilà le montage tel qu'il a été fait. Donc cette robe, vous pouvez la voir également en salle d'exposition. Et puis le dernier cas que je vais vous présenter, et donc là c'est un thermocollage, un des thermocollages dont je vous ai parlé. Donc il y avait une grande pièce qui a été placée, le tulle est complètement racorni, enfin très, très rigide, il s'enroule sur les côtés, il est très coupant sur les arêtes. Donc la première étape a été de le retirer, et ça nous a donné des choses assez archéologiques, si on peut dire, puisqu'on s'est retrouvé avec plein de petits morceaux à replacer. Et donc là, on a dû travailler sur des très grandes pièces, puisque la robe est composée de quatre panneaux en quart de cercle, qui sont des quarts de cercle. Donc pareil, on a procédé un peu différemment des cas précédents, puisque là, on a placé directement les deux couches pour la mise en sandwich, et on a fait les points sur les deux couches en même temps. Je ne sais pas si c'est très clair. Deux couches de support, je voulais dire. Donc là, on a procédé comme sur comme quand on a des lacunes. Donc on a fait des points autour des pièces, et puis on a quand même mis quelques lignes de points de points droits pour le fixer davantage. Donc voilà. Donc on s'est servi de ce fil pour pouvoir suivre la forme circulaire. Donc voilà ce que ça donne quand on a vraiment des textiles très abîmés. Et donc là, vous pouvez voir aussi comment on a pu pallier au fait que les deux couches de support, par contre, pour cette robe-là, donnaient un volume trop important au niveau des hanches. Donc on a choisi pour la deuxième partie, si vous voulez, du sandwich, la deuxième couche, on l'a coupée en fonction de l'état du tulle pour éviter d'ajouter de la rigidité sur cette partie-là, donc pour essayer de respecter le tombé. Vous voyez, le tombé très droit à cet endroit-là. Donc celle-ci est visible en exposition ici. Donc je vous en ai présenté 9, je vous en avais annoncé 10. Voilà la dernière, elle reste à faire. Donc ici, on a... plein de choses à faire encore. Il y a des thermocollages à enlever dans les petits volants. Là, on est face à une gaze qui est très abîmée aussi. Donc, plein de choses à dire au prochain colloque. Et donc, j'ai commencé en apportant une restriction géographique à ce qu'on a fait pour le tulle. Donc là, je vais ouvrir un petit peu en disant qu'on continue les expérimentations à l'atelier, pas seulement sur le tulle. On essaye de voir comment on peut l'utiliser, pas trop, raisonnablement, en s'adaptant à chaque cas de restauration. Donc là, je n'ai pas de photo générale, j'en suis désolée, mais on a utilisé le nylon net pour faire juste une enveloppe, un gainage d'une ombrelle qui est très abîmée et qui ne peut plus être présentée ouverte. On s'est rendu compte que je suis d'accord, la photo n'est pas flatteuse du tout, ça opacifie beaucoup moins qu'une crépeline et ça laisse visible le textile de l'ombrelle en dessous. On a le projet de faire des essais également sur une robe qui fait partie de la collection du musée, qui n'est pas une robe Yonnet et qui n'est pas en tulle. Donc ce sera simplement des essais pour voir comment ça peut se comporter avec une soie qui est relativement rigide à l'origine. Évidemment, on ne veut pas travailler avec ce matériau-là sur des choses très souples, puisqu'on modifierait l'aspect.